pour moi, un amateur est quelqu'un qui s'engage dans des choses qu'il aime, qu'il peut maîtriser, si vous voulez. Peut-être pas au niveau professionnel, mais qu'il s'engage avec une certaine amour du sujet ou de la cause ou de l'idée. Et là, pour moi, l'idée de l'amateur implique aussi une certaine diversité. Hein, parce que là, moi, je pense que l'intellectuel ne doit pas être toujours sombre et sans humour, c'est-à-dire. Alors, l'amateurisme, c'est, par exemple, pour moi, l'exemple, c'est que j'aime la musique et je suis musicien. Alors, il n'y a rien à faire entre la musique et la politique ou les idées. Mais je pense que une activité enrichit les autres. C'est pour ça l'amateur qui est par définition, à mon avis, un peu anarchique, si vous voulez, un peu désordonné, dans le sens qu'il fait plusieurs choses. C'est difficile de dire d'un amateur qu'il est, par exemple, expert dans quelque domaine ou l'autre. Alors, je préfère ça, l'instabilité, si vous voulez, et dérégulation de l'amateur, pour l'intellectuel en tout cas.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Edward Said était un auteur, doublé d'un immense orateur, qui prenait autant de plaisir qu'il en donnait à transformer sa pensée en objet vivant, en théâtre. La parole faisait de lui un artiste. Il comptait sur son intelligence pour retenir l'attention, sur son charme pour emporter le morceau, sur son pouvoir de conviction pour apaiser sa profonde, quand bien même invisible, anxiété. N'était-ce le secours de la musique, la machine de guerre à laquelle il s'est attaqué, la puissance politique et militaire du duo israélo-américain, aurait sans doute épuisé ses forces bien avant sa leucémie. Ce sont les premiers mots du très beau livre édité à la Fabrique que Dominique Hédé consacre à Edward Said, cet intellectuel américano-palestinien, professeur de littérature à Columbia, disparu en 2003. Infatigable pourfendeur de la politique d'occupation israélienne, tout comme de la corruption des dirigeants palestiniens, cet écrivain talentueux, habitant l'exil avec douleur et élégance, était aussi un musicien accompli. Sa belle définition de l'amateur que l'on vient d'entendre, celui qui s'engage par amour pour des causes, nous rappelle, en ces temps surchargés d'experts en tout, que l'humour et le doute sont des vertus essentielles dans un monde où triomphe désormais la simplification. Bonsoir Dominique Hédé.
Bonsoir Catherine Levin.
Vous écrivez que ce livre, vous avez mis du temps à l'écrire, que ça a été difficile et que, c'est la formule que vous employez, vous l'avez réalisé pour essayer de vous accorder avec la mort d'Edward Said. Vous avez partagé sa vie, vous avez partagé ses combats, son engagement intellectuel et politique. Il vous manque, bien sûr, il nous manque d'ailleurs. Vous avez relu tous ses livres, dites-vous, en anglais, dans la langue dans laquelle il écrivait. Est-ce que ces livres, 15 ans après sa mort, tiennent encore la route?
Ma réponse est clairement oui, avec une nuance, c'est que certains de ces livres sont plus circonstanciés et donc, en effet, peut-être moins de cette époque. Mais oui, son œuvre est totalement actuelle et en même temps, c'est à partir de son actualité qu'il nous faut réfléchir aux nouvelles questions qui se posent et qu'il n'a pas, pour des raisons évidentes, pu se poser lui-même au moment où il est parti. Mais oui, je crois que c'est une œuvre qui, au plan de la référence et de l'information, est une œuvre absolument majeure pour la pensée intellectuelle contemporaine, non seulement arabe, mais internationale. Oui.
L'œuvre d'Edward Said, qui commence pour nous en France avec l'orientalisme, cette vision que l'Occident a développée sur l'Orient compliqué, sur le Proche-Orient très compliqué, évidemment, elle reste d'actualité parce que le conflit israélo-palestinien est là, parce que la domination américaine sur cette partie du monde reste toujours d'actualité. Mais vous le relevez à un moment, d'ailleurs, dans la plupart de ses livres, il a parlé de ce monde islamique, et vous dites il n'a pas vu l'importance terrible que prend le poids de la religion sur cette partie du conflit, sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde.
Je ne saurais même pas dire en quelle mesure il a vu ou n'a pas vu, mais je saurais dire qu'il a concentré son combat, et on le comprend, sur un front qui était énorme, parce que très peu de gens se mobilisaient dans ce sens, qui était de combattre tous les clichés, toutes les bêtises, toutes les poncifs racistes qui se disaient sur l'islam et les musulmans aux États-Unis, non seulement dans son milieu, mais dans l'ensemble des médias américains et dans beaucoup d'institutions. Donc il a choisi un territoire qui correspondait à l'identité qui était la sienne, qu'il déclinait en permanence. Il était un secular intellectual, un intellectuel séculier.
Laïque.
Donc il n'a pas voulu s'attaquer aux religieux dans aucune des trois religions. Il venait lui-même d'un milieu protestant avec des membres de sa famille qui avaient été même engagés en tant que pasteur. Il se battait contre Israël, qui est adossé quand même au judaïsme. Et il venait d'un monde arabe où l'islam, en effet, n'avait pas encore départagé le rapport entre le temporel et le spirituel. Donc, la charge était énorme. Il a fait un choix. Il a fait le choix de se battre politiquement, historiquement, contre des injustices flagrantes qui avaient été très peu relevées par le pouvoir du savoir occidental. Donc, il m'est facile à moi aujourd'hui de dire avec le recul qu'il n'a peut-être pas été aussi vigilant qu'il aurait dû l'être sur la question du retour massif de l'islam sur la scène politique. Il a, en quelque sorte, posé sa critique sur les régimes plutôt que sur les docteurs de la loi, si on peut dire. Et donc, il était sans indulgence aucune pour tous les régimes politiques de cette région que les insurrections ont essayé en 2011 de secouer avec, malheureusement, des résultats beaucoup plus que mitigés.
Alors, Edouard Saïd, intellectuel laïque, un penseur de la complexité aussi, appartenant par ses origines à ce monde palestinien qu'il tentait de défendre, mais appartenant aussi par sa nationalité, sa profession, son lieu de vie, à ce monde occidental qu'il critiquait fermement. On va l'écouter, c'était en 2003, peu de temps avant sa mort, et à l'occasion de la parution de son autobiographie, Out of Place, en français, à contre-voix.
Et j'ai pensé qu'au même temps que le temps passe, je voudrais sauver quelque chose de ce temps. Et pour moi, c'était le passé, les mondes où je me suis trouvé comme enfant, la Palestine qui a disparu en 48, l'ancien Égypte qui a disparu avec la révolution de 52, et le Liban où j'ai passé mes étés, qui a aussi disparu pendant la guerre civile. Alors, c'était un effort de reconstituer ces mondes, si vous voulez. Quand j'étais jeune, c'était très difficile de trouver un moyen de m'exprimer en tant que personne compliquée. Mais, par le passage de temps, je trouvais un moyen de faire ça d'une manière qui m'a donné une certaine liberté. Je n'étais pas obligé à être une seule chose. Et c'est pour ça que je vois, à la fin de ma vie maintenant, que je voyage entre les guerres, entre les mondes, et je suis citoyen dans tous les lieux. Comme on dit en anglais, je ne suis pas at home, je ne suis pas chez moi.
Nulle part.
Nulle part.
Dominique Hédé, on entend le lapsus et c'est très intéressant. Quand Edouard Saïd dit « je voyage entre les guerres, pardon, entre les mondes », on sent bien la douleur aussi d'appartenir oui. à tous ces lieux et de tenter de développer une approche complexe d'un problème complexe alors que tout pousse à la simplification.
Oui, oui, oui. Vous savez, d'abord, je suis très émue de l'entendre parler, notamment en français, et je ne peux pas m'empêcher de rappeler aux auditeurs que cet homme se rendait beaucoup en France, qu'il avait énormément lu les auteurs français. Peu de critiques littéraires français avaient pris autant de temps à lire et les classiques et ses contemporains, pour aller vite, Victor Hugo, à Flaubert, à Renan, et parmi les contemporains, Foucault, Sartre,
Derrida
évidemment, Deleuze, beaucoup d'autres. Et voilà que cet homme qui précisément voyageait d'une culture à l'autre, d'un monde à l'autre, et son lapsus en effet d'une guerre à l'autre, était donc dans une position idéale de passeur, c'est-à-dire de transmetteur. Et je ne peux pas ne pas pointer ici le fait que, ayant été moi-même en charge du lancement du livre Orientalisme en France en 80, la difficulté que j'ai eue à faire entendre sa voix, non pas à la radio, mais à la télévision. C'est-à-dire que sa voix aurait été doublée de cet homme très charismatique dont vous parliez tout à l'heure. Sa présence aurait pu être, pour le débat public, politique, français, d'une immense importance. Et quand je dis immense, ce n'est pas, je dirais, la part subjective, affective de moi qui parle. C'est vraiment avec objectivité que je dis qu'on a raté là un débat majeur et qu'on a laissé un certain nombre d'intellectuels français assez satisfaits de leur position et de leur précaré, discuter ensemble et parfois avec d'autres qui étaient des contradicteurs caricaturaux, sans nuance, et qui étaient exactement ceux qui allaient les conforter dans leur position. D'où la tragique situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, d'avoir d'un côté des intellectuels qui s'arc-boutent sur une certaine lecture du passé, de la laïcité, à laquelle je suis moi-même très attachée, mais pas dans les termes qui sont les leurs, et de l'autre, des intellectuels qui ont mélangé le religieux et le politique de manière aussi désastreuse, et on a enfermé le débat français dans ce rapport de force qui est pour la pensée une mutilation grave. Si Edward Said avait été autorisé, ayant appris le français, comme peu de Français ont appris l'anglais ou d'autres langues qu'ils savaient, si on l'avait autorisé à s'exprimer à la télévision face à ce type de personnage, je suis sûre que ça aurait bousculé un petit peu les conforts des uns et des autres.
Oui, mais on en revient toujours, Dominique Hédé, à ce problème de la simplification et de la pensée complexe. On dit toujours que, notamment à la télévision, la pensée complexe est difficile à mettre en scène pour ceux qui aiment bien qu'il y ait deux clans qui s'affrontent. Et c'est vrai qu'il faut rappeler qu'Edward Said défendait les droits du peuple palestinien, chassé de chez lui en 48, soumis à l'occupation, à la colonisation de leurs terres par Israël. Il les soutenait, il a été membre du Conseil national palestinien de 77 à 91, mais Edward Said était l'un des critiques les plus féroces des dirigeants palestiniens, notamment de l'OLP, de Yasser Arafat, un critique virulent des accords d'Oslo de 93. Il parlait de Vichy palestinien, de Versailles palestinien pour ce traité, et il parlait d'Arafat comme d'un dictateur corrompu. On va l'écouter, c'était en 2002, il expliquait pourquoi ses engagements étaient des engagements politiques, mais que lui-même n'avait jamais été un politicien.
Mais je reproche à ma famille et ma classe, si vous voulez, palestinienne, qui a adopté, si vous voulez, l'idée traditionnelle des sociétés de ce temps, arabe, que la politique doit être faite pas par les citoyens, mais par la classe politique, exactement. Et j'avais deux ou trois membres de ma famille qui étaient, je ne dirais pas qu'ils jouaient des rôles politiques, mais ils étaient dans les comités, etc. Mais à part ça, nous étions très séquestrés de la vie politique. Et c'était le cas même après 67, quand moi, je suis devenu très engagé en la politique palestinienne, que ma mère et certainement mon père n'étaient pas du tout d'accord. Hein, il me disait tout le temps, pourquoi tu fais la politique? La politique, c'est pour les autres gens, pas pour nous. Tu es un érudit, tu es un professeur, il faut que tu te concentres sur ça et laisse la politique pour les politiciens. Alors cette idée me semble assez tort. Et pour moi, l'idée de servir la Palestine et le peuple palestinien est beaucoup plus important que de dire les choses correctes et d'être proche aux leaders, etc. Tout ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est une question de dévotion, si vous voulez. Peut-être une idée protestante, au fond, je ne sais pas.
Dominique Hédé, Edward Said, évidemment, était surveillé, on le sait, par le FBI aux États-Unis. Mais il était aussi craint, redouté, critiqué du côté des Palestiniens, des organismes dirigeants de Palestine. C'était, comme il le dit, hein, il était out of place en permanence. Et vous avez un moment dans votre livre, qui lui est consacré, une phrase terrible en disant qu'il est mort de la Palestine.
Ah oui, je l'ai peut-être pas dit en si court, mais je dis qu'en effet, sa santé en a pris un coup. C'est-à-dire que, pour ne prendre qu'un exemple qui a été celui qui l'a le plus traumatisé, c'est justement après avoir inauguré l'orchestre israélo-arabe avec son ami Daniel Barenboim à Weimar en 99, c'est au retour de cette expérience qui a été d'une richesse inouïe, que, à l'aéroport de Salzbourg, il apprend que aux États-Unis se mène une cabale dirigée par un certain Weiner, un illustre inconnu qui n'existe d'ailleurs que par la cabale entreprise contre lui, qui a répandu la rumeur que Edward avait inventé son histoire palestinienne, qu'il n'était pas né à Jérusalem, qu'il n'y avait pas vécu, qu'il n'avait aucun rapport avec ce pays. Enfin, il l'a traité de liar avec des médias américains, évidemment, très prêts à reprendre la nouvelle. Pour Edward, ça a été un coup absolument énorme. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il l'a pris avec une telle souffrance? Probablement parce qu'on oublie à quel point sa bataille a été menée sur tous les fronts, en même temps et tout le temps. C'est-à-dire qu'il lui a fallu, par rapport à son histoire familiale, prendre des distances abyssales tout en ayant des rapports affectifs très forts, notamment avec sa mère, qui était un personnage central dans sa vie. Donc, il lui fallait à la fois conserver de l'amour là où il voulait en conserver et prendre des distances radicales, sans concession, pour mener ce fameux combat à partir de New York, qui n'était tout de même pas une ville dont on pourrait dire qu'elle était une succursale de la résistance palestinienne. Donc, voilà cet homme qui se battait quand même très seul, contre également une résistance palestinienne qui tournait mal, c'est-à-dire qui tournait à l'autorité et à la corruption plutôt qu'à la résistance. Et donc, ayant eu affaire des mouvements aussi simultanés sur autant de fronts à la fois, ce coup porté par Weiner était vraiment le coup de trop. Et c'est à ce moment-là qu'il a dû d'ailleurs reprendre de manière assidue une chimiothérapie qui n'avait pas été prévue. Donc, j'abuse un peu peut-être, mais je me permets de dire que oui, on peut souffrir dans ces pays avec ces combats, physiquement et moralement, sans être blessé sur un champ de bataille.
Thank you.
si on est expert. Et c'est pourquoi l'idée de contrepoint en musique, c'est tellement important pour moi. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la littérature anglaise, vraiment, sans savoir qu'il existe, par exemple, une autre littérature anglaise qui n'est pas écrite par les Anglais, c'est-à-dire une littérature postcoloniale, justement, qui a refait l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas seulement Conrad, mais c'est Chinua Achebe, c'est Ngugi wa Thiong'o, etc. Alors, cette idée de prendre le savoir comme quelque chose qui est divers, où il y a plusieurs lignes, si vous voulez, est l'idée centrale de l'amateur, qu'il ne reste pas dans une voie, mais il voyage partout, sans être fidèle à une. C'est-à-dire, il y a toujours une vraie prise de conscience.
Pour la polyphonie.
La polyphonie.
Dominique Hédé, on entend la voix d'Edward Said, c'était en 96, où il exprime vraiment bien ce qu'il était. C'était avant tout un intellectuel. C'était un grand écrivain. Sa prose est élégante, toujours. Et d'ailleurs, on s'étonne qu'il ne se soit jamais autorisé le roman. Il aurait sans doute, vu ses goûts aussi en littérature et sa manière d'écrire, il aurait sans doute été un grand romancier, non ? Vous ne pensez pas ?
On ne saura jamais. Il a commencé un roman à la toute fin de sa vie, donc il y a un manuscrit inachevé quelque part. Je ne peux pas du tout savoir parce que je n'ai pas lu ces pages. Il avait une position assez paradoxale, c'est-à-dire que vers la fin de sa vie, il me disait, tu sais, le roman est un genre dépassé, il avait tendance un peu à prendre ses distances par rapport à un genre qui a habité sa vie, mais qu'il situait davantage dans le passé. Et puis, je crois que ça s'accompagnait en fait d'un désir refoulé, puisque finalement, il s'y est quand même mis à la dernière minute, et il me disait, mon rêve est d'écrire un livre sur la trahison. Donc, je ne sais
toujours
pas...
Toujours Conrad qui revient.
Toujours Conrad qui revient. Je ne sais pas, Kathleen Evin, si Edward aurait été... Je crois que s'il l'avait été, il l'aurait été. Je ne crois pas que c'était exactement l'endroit où il aurait pu se déployer le plus librement. Parce que l'imagination qu'appelle le roman met en danger un endroit où Edward ne pouvait pas toujours aller. Il avait besoin d'une maîtrise intellectuelle très grande, avec ses grands écarts qui étaient les siens. Et je crois que le roman aurait pu ouvrir des gouffres qui n'étaient peut-être pas nécessairement de son histoire bien à lui. Je ne sais pas, en tout cas, vous me voyez hésitante sur cette question.
C'est vrai, mais on finit par se demander, Dominique Hédé, si en fait la responsabilité de l'engagement politique à laquelle il s'était tenu était justement le frein qui l'empêchait de se laisser aller à l'écriture romanesque.
C'est possible, mais vous savez, on pourrait aussi dire que il aurait pu être un musicien à part entière s'il avait décidé cette carrière plutôt que l'autre. Il a préféré inventer, et c'est en ce sens que je dis qu'orientalisme est aussi le roman de sa pensée, c'est-à-dire qu'il a préféré mettre ses idées dans un ordre ou un désordre particulier qui allait finalement en faire un objet romanesque qui, je dirais, compte beaucoup plus que n'aurait compté un roman, je crois, un roman d'Edward au sens plus classique du terme, où je ne pense pas qu'il était aussi équipé qu'un Conrad ou qu'un Kipling, qu'un Jane Austen, pour aller dans les coins et les recoins d'un imaginaire en difficulté. Je ne suis pas sûre.
Alors la littérature, et la littérature anglo-saxonne, celle de Conrad et d'Henry James en particulier, a irrigué beaucoup et sa pensée et son écriture. Dominique Hédé, d'ailleurs, il y a beaucoup de pages dans votre livre qui en parlent, mais il y a surtout cette influence de la musique. D'ailleurs, on l'entendait là dans sa voix dire « penser toujours le contrepoint ». Le contrepoint, c'est Bach, bien sûr, sa musique fétiche, il aimait beaucoup le jouer au piano. Et vous dites que, au fond, ce qui a presque le plus compté dans sa vie pour l'affirmer, c'est sa rencontre avec Daniel Barenboim.
Disons que ça a été une rencontre extrêmement importante et qui était aussi la moisson des rencontres intérieures. J'ai fait un lapsus.
Acceptons-le.
Oui, je l'assume totalement. Des rencontres antérieures et intérieures, les deux. Parce que finalement, Edward devait être arrivé à un certain stade de célébrité, de reconnaissance, donc d'un certain apaisement narcissique. Son narcissisme était quand même très blessé par son histoire familiale, par son combat politique, etc. Donc il arrivait à un moment de sa vie où il était non seulement fragilisé par la maladie, qui vous rapproche toujours de vous-même. C'est, s'il y a un avantage à être malade, c'est celui-là. C'est qu'il vous renvoie brutalement vers l'essentiel, c'est-à-dire vers le rapport à la mort. Et donc, ça vous recentre. Et il y avait en même temps cette musique qui avait accompagné sa vie et qui était incarnée par cet homme également extrêmement intelligent, pas un intellectuel au sens où il l'était, donc il n'était pas sur le même territoire immédiat, mais sur le même territoire au sens large du terme. C'est-à-dire, c'était deux intelligences qui se rencontraient avec une même passion pour la musique, l'un étant un génie, je parle de Barenboim, et l'autre étant dans le domaine de l'interprétation des textes et de la connaissance historique plus équipée que son camarade, si je peux dire. Donc, ils ont ensemble formé un tandem où ils ne se menaçaient pas. Il aurait rencontré Barenboim 20 ans plus tôt, que la rencontre n'aurait peut-être pas eu lieu de cette manière. Elle s'est passée à un moment particulier. Je revenais également dans sa vie. Il y a eu un certain droit au luxe au moment où la mort approchant, les erreurs politiques des Arabes ayant culminé, celle du mouvement palestinien également, on était sommé de comprendre, si on voulait rester un peu intelligent, qu'il fallait ouvrir des portes ailleurs et que toute dissidence israélienne, même si elle n'était pas radicale comme l'était Israël Shaak ou Amira Haas ou d'autres de nos amis, même si cette dissidence n'était pas radicale, si elle était fondée sur une vraie ouverture et une vraie envie de faire la paix, il fallait ouvrir grand les bras. Il l'a fait et il l'a très très bien fait.
D'ailleurs, on va écouter Daniel Barenboim, c'était en 2005, donc 2 années après la mort d'Edward Said, parler justement de ce que cet orchestre était et n'était pas. C'était pas la paix, mais c'était quand même un dialogue.
This project that Edward Said and I founded in 1999 has been sometimes described in a very flattering way for us as an orchestra for peace, an orchestra that will bring this and that other feeling. Ladies and gentlemen, let me tell you something. This is not going to bring peace. You know that. The fact that these wonderful people play together here will not bring peace. What it can bring is understanding, the patience, the courage, and the curiosity to listen to the narrative of the other. This is what this is about. In this context, everybody has been able to express himself freely and perhaps just as important to hear the version of the other. This is why we come to you here today with a message of humanity, not with a political message, with a message of humanity, a message of solidarity for the freedom that Palestine needs, and for the freedom that the whole region needs.
Voilà, effectivement, l'intelligence de Daniel Barenboim, c'est un pas vers la compréhension dont tout le monde a besoin. Et vous rappelez, Dominique Hédé, dans votre livre, que Haaretz, le grand quotidien israélien, de gauche, en tout cas partisan de la paix, avait parlé à propos d'Edward Said de « last Jewish intellectual ». Le dernier intellectuel juif. C'est pas tout à fait le dernier, il y en a d'autres, mais c'est effectivement cette pensée à la fois sans concession et amicale aussi qui caractérisait Edward Said.
Oui, je crois que c'était une phrase qu'Edward Said avait dite lui-même et qui a été reprise par Haaretz. C'était avec ironie aussi sa manière de dire « Vous n'avez pas le monopole de l'exil, du va-et-vient intellectuel, de la culture, de la mélomanie, de la musique. » Et c'est vrai qu'il a été très marqué par plus d'un penseur juif, et je dirais Adorno en tête, Auerbach aussitôt après, et beaucoup d'autres. Donc il était, quand il reprenait la phrase d'Adorno qui était « It is part of morality, not to feel at home at home », c'est une partie de la moralité que n'être pas chez soi, chez soi. Il était au plus près de ce qu'il pensait, donc il est certain qu'il avait avec l'esprit de la diaspora juive des affinités, je dirais, supérieures. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ce qui s'est passé entre lui et Barenboim, que Barenboim raconte tellement bien quand il dit, évidemment, c'est pas un projet pour la paix, mais c'est un espèce d'échantillon magnifique. À l'heure qu'il est où l'intelligence artificielle est en train de dévancer à une allure vertigineuse l'intelligence biologique et donc de prendre des pouvoirs que l'intelligence biologique ne sait pas encore très bien contrôler ou comment elle va le faire. Ce que disait Edward de l'expertise pourrait s'appeler aujourd'hui l'intelligence artisanale. Et cette intelligence artisanale, c'est précisément de faire ce que les machines ne peuvent pas faire. Et une chose comme cet orchestre, ou un travail comme celui qu'ont mené séparément et ensemble Barenboim et Saïd, c'est du travail artisanal, c'est-à-dire travailler sur la mémoire, là où on est en dehors ou au-delà de ce qui s'appelle stocker de l'information, écrire l'histoire par accumulation, mais l'écrire avec ce que la mémoire veut dire de blessures, de choses partageables, impartageables, isolées. Et je disais hier à Beyrouth, dans un talk avec des Libanais, j'avais terminé en me rappelant un petit événement qui s'était passé quand on avait été à Buchenwald avec les Israéliens et les Arabes, Barenboim et Saïd. Et sur le chemin, l'un des musiciens s'est écarté pour prendre Saïd de côté et lui faire une confidence. Quand Saïd est revenu, il avait l'air plus grave. Il s'est tourné vers Barenboim et lui a dit « Tu ne m'avais pas dit que son père avait été à Buchenwald ?» Et Barenboim lui a répondu « Je ne le savais pas. C'est à toi qu'il a fait la confidence. » Et je disais hier à Beyrouth « Vous savez, le jour où nous pourrons confier à nos ennemis ce que nous ne confions même pas à nos amis, nous aurons fait un pas immense, non pas vers la paix qui malheureusement s'éloigne et s'éloigne, mais vers ce que Barenboim appelle la compréhension de la paix. »
Merci infiniment Dominique Edet d'être venu nous voir aujourd'hui. Ce livre magnifique et qu'il faut lire aussi pour avoir envie de lire Edward Said. Ce livre qui vient de paraître aux éditions La Fabrique, Edward Said, le roman de sa pensée. Certains des écrits d'Edward Said sont publiés d'ailleurs à La Fabrique, notamment tous ses articles sur Israël et Palestine. Chez Actes Sud également, on trouve les réflexions sur l'exil et beaucoup d'autres. Lequel recommanderiez-vous, Dominique Edet, pour rentrer dans l'œuvre d'Edward Said ?
Je crois tout de même Orientalisme, non pas que ce soit mon préféré, mais que c'est une somme absolument majeure et à partir de laquelle beaucoup de choses sont encore à penser aujourd'hui.
Merci infiniment, Dominique Edet, d'être venu nous voir. Merci à vous, au revoir.
C'est moi qui vous remercie énormément et du choix des voix de Saïd et de Barenboim, c'était magnifique, merci.
Merci à vous. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce samedi, mais nous avons rendez-vous dans une semaine, à la même heure, 19h20. J'aurai le plaisir de recevoir l'écrivain Jean-François Billeter, sinologue, qui publie aux éditions Alia deux petits livres merveilleux sur sa femme, Wen. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et Babel sur scène. À bientôt.